RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Nous recevons ce soir l'ancien ministre italien des Affaires européennes et président de l'Union des fédéralistes. Bonsoir Sandro Godi. Merci d'avoir été d'être notre invité ce soir. Donc jeudi dernier, la France a rappelé son ambassadeur à Paris. Les relations entre les deux pays se sont dégradées à vitesse grand V. La raison de cette crise diplomatique, c'est la rencontre entre Luigi Di Maggio, le vice-président du Conseil italien, et des Gilets jaunes en France. Paris a qualifié cette rencontre de provocation inacceptable. La France a-t-elle eu, selon vous, la bonne attitude? Est-ce qu'il fallait, dans le fond, fixer une ligne rouge à ce que Paris considère comme une limite?
Je dirais que malheureusement, oui. Malheureusement, la France a raison. Et je dis malheureusement parce que c'était quand même les vice-présidents du Conseil de mon pays. Même si je suis à l'opposition de ce gouvernement, je crois que Luigi Di Maio a vraiment franchi une ligne rouge en venant en clandestin en France, sans prévenir le gouvernement français en tant que membre du gouvernement italien, en rencontrant un des plus violents, selon ce qu'on lit dans la presse, des Gilets jaunes, extrémistes de droite, qui a invoqué un coup d'état militaire contre le gouvernement français. Vraiment, c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire dans les relations entre deux pays, et surtout entre deux pays amis alliés, comme il devrait être la France et l'Italie. J'ai dit « il devrait ».
Ça va, ça va laisser des cicatrices ou c'est réparable?
Il n'y a rien d'irréparable en politique internationale, mais sans doute ça ne va pas aider. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Italie d'ouvrir des conflits avec tous les pays voisins et qui devraient être les alliés pour aborder les questions qui nous sont à cœur, qu'il s'agit de la sécurité, de l'immigration, etc. Mais ces gouvernements trouvent bon d'ouvrir un conflit avec tous les voisins. Une fois c'est la France, demain, aujourd'hui c'est la France, demain c'est Malte, après-demain c'est l'Espagne. C'est totalement insensé.
Fâché avec tout le monde, quoi.
C'est totalement insensé, et je comprends la réaction française, et je crois que j'aurais réagi de la même façon.
Quelle était l'intention, selon vous, l'objectif de Luigi Di Maio par cette initiative, d'une part, et d'autre part, est-ce que c'est une initiative strictement personnelle? Ou est-ce que, d'après vous, il a consulté le président du Conseil et éventuellement Matteo Salvini avant de le faire?
Non, je ne crois pas qu'il ait consulté le président du Conseil, parce que le président du Conseil est une boîte vide en ce moment en Italie. Et on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, ça aussi, ça me fait mal, de voir un hémicycle à Strasbourg au Parlement européen, vide du moment où le président du Conseil s'exprime. Mais comme il n'a aucun poids politique, que Luigi Di Maio...
Donc il ne peut pas apporter de la raison
absolument
dans tout
pas.
Ça.
Alors son objectif, c'était quoi? C'était de faire parler de lui parce qu'il est un peu moins populaire que Matteo Salvini, par exemple?
Tout d'abord, la surenchère entre lui et Salvini. Emmanuel Macron, c'est l'ennemi parfait. Macron, le pro-européen, Macron qui veut sérieusement refonder l'Europe, c'est l'ennemi parfait des nationalistes. Et il y a une surenchère entre Di Maio et Salvini, c'est lui qui insulte, provoque le plus votre président de la République. Secondo, arme de distraction des masses, administration massive. Les choses vont mal pour les 5 étoiles à l'intérieur. Les scrutins régionaux dans les Abruzzes d'hier démontrent ils ont vraiment perdu beaucoup de voix, donc ils doivent chercher un ennemi extérieur. Et ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, recherche désespérée d'alliance pour le mouvement 5 étoiles au Parlement européen.
Alors justement, on parlera de la politique intérieure italienne, puisque dans le fond, vous l'expliquez, c'est aussi une des raisons de ces attaques, à la fois nominem contre le président de la République française et puis contre la France. Mais comment vous expliquez ce sentiment anti-français et pourquoi la France bouc émissaire? On sait, en diplomatie, on aime parler d'irritants. Qu'est-ce qui, dans le fond, irrite l'Italie
Alors, tout d'abord, il faut dire que Salvini et Di Maio cherchent toujours un bouc émissaire. C'est toujours la faute à quelqu'un. C'est la faute à l'Europe, c'est la faute à la France. Pour tout, s'il y a la récession économique, c'est la faute à l'Europe. S'il y a l'immigration, c'est la faute à l'Espagne. Si l'Italie n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde, c'est la faute à la France. Donc c'est exactement ces cas de figure. Et il est clair qu'il y a des questions sur lesquelles nous sommes en compétition. Sur la Libye, on est en compétition. Sur la question de l'immigration, je crois que les choses pourraient s'améliorer.
Expliquez-nous sur la Libye en deux mots.
L'Italie et la France auraient intérêt à davantage chercher la coopération. La Libye, c'est un État complètement à reconstruire. Et vu des Roms, on a l'impression qu'il y ait une activité française compétitive vis-à-vis de l'Italie. Mais ceci, je dirais que d'un point de vue, d'un côté, c'est assez normal dans la politique internationale. De l'autre côté, ce n'est pas en ouvrant un conflit permanent avec la France qu'on va résoudre des questions sur lesquelles on devrait coopérer. C'est un mix entre coopération et compétition. Il y a des questions de politique internationale dans lesquelles les pays européens sont doivent coopérer, un peu sont en compétition. Mais d'ouvrir des conflits inutiles, ça n'aide ni les uns ni les autres. Dans ces cas-là, ça n'aide pas l'Italie.
Sandro Gozzi, est-ce que, d'une certaine manière, Emmanuel Macron n'avait pas quand même plus ou moins déclenché les hostilités lorsqu'en juin dernier, il avait parlé de la lèpre nationaliste qui monte en Europe en visant clairement les dirigeants italiens, ou quand il avait dénoncé très explicitement, là je cite, la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien lorsque il avait refusé de recevoir l'Aquarius. Les dirigeants italiens ne se sont pas sentis blessés par ces propos?
Blesser Salvini, c'est un peu difficile, mais si ça vous plaît pas, la lèpre nationaliste, prenez les discours de Mitterrand devant le Parlement européen en 1995. Pour les Européens, le nationalisme a toujours signifié la guerre et les conflits. Et moi, je crois que ça, c'est une réalité. Mais une chose, c'est exprimer une évaluation sur un mouvement politique, et une autre chose, c'est faire ce que Di Maio
fait. C'est un peu plus qu'une évaluation, c'est un propos assez hostile, ça, on peut le dire.
Non, c'est un propos radicalement alternatif à ce que les nationalistes italiens représentent. Et moi, nous devons
les combattre. Vous reconnaissez dans ces propos?
Moi, je me reconnais dans ces propos. Je crois que le nationalisme, c'est un cancer pour les Européens. C'est un cancer pour mon pays. Et il faut absolument l'éradiquer le plus tôt possible.
Est-ce qu'il y a un racisme d'État en Italie?
Il n'y a pas racisme d'État, mais il y a des propos sur lesquels il faut faire attention, parce qu'il y a des propos trop ambigus qui, quand ils sont dans la bouche d'un dirigeant des gouvernements, peuvent après inspirer une violence verbale, sinon physique, par l'opinion publique commune. Et je crois que là aussi, dans les langages, il y a des lignes rouges qui sont franchies trop souvent en Italie par les dirigeants de la Lega ou par les dirigeants de 5 étoiles.
Alors on va parler d'Europe, mais avant, pour éclairer les choses, c'est qu'il faut comprendre aussi la politique intérieure italienne. Et vous le disiez, cette coalition est fragile entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Et vous le rappeliez, ce week-end, il y a eu des élections régionales dans les Abruzzes, et ça a démontré le rapport de force. La Ligue monte, le mouvement 5 étoiles est en train de s'écrouler. Est-ce que Salvini va rompre l'alliance, le contrat de coalition avec le mouvement 5 étoiles pour gouverner avec la droite?
C'est difficile à dire. Sans doute, en Italie, il n'y a plus un centre droit. Il y a une droite extrême, droite et hégémonique, hégémonisée sous l'hégémonie de Matteo Salvini. Donc, le centre droit a disparu, Forza Italia va disparaître, est très faible. Et évidemment, ceci crée des tensions entre la Lega qui est en train de monter et les 5 étoiles qui sont en train de s'écrouler, parce que dans les Abruzzes, on a réussi à redevenir la deuxième force politique en tant que centre gauche en dépassant les 5 étoiles. Ceci va créer des tensions, mais c'est difficile. Sans doute, les 5 étoiles n'ont aucune option. La seule option qu'ils ont, c'est rester au gouvernement. Salvini a plusieurs options. Il peut rester au gouvernement, il peut demander un remaniement gouvernemental, il peut menacer aussi une crise de gouvernement. Je ne crois pas qu'il en ait intérêt en ce moment, mais sans doute, il y a un système politique totalement changeant en Italie. Oui. Il n'y a plus de centre droit et centre gauche. Il y a une extrême droite et il y a une alternative que nous devons encore construire du côté des progressistes, des libéraux, etc.
Je voudrais qu'on revienne un instant sur les motifs de tension entre la France et l'Italie, puisqu'il y a aussi le sujet des militants d'extrême gauche, des années de plomb, comme on dit en Italie, réfugiés en France depuis des années, depuis notamment la doctrine de François Mitterrand sur le sujet. Ça, c'est un dossier sur lequel la classe politique italienne est assez unanime tout de même pour déplorer, voire condamner l'attitude de la France, non?
Sous Cesare Battisti, la France a commis des graves erreurs. César Battisti, c'est un...
Qui a été arrêté récemment au Brésil.
Brésil. Il a été jugé, on est dans un état de droit en Italie. La justice est autonome, indépendante. César Battisti a été condamné pour un meurtre. Et il n'a pas été extradé de la France. À l'époque, la France a commis des graves erreurs. Mais là aussi, et donc là, on est d'accord sur le fait que, d'après nous, ce sont, il faut examiner cas par cas.
Il y a une quinzaine de dossiers, apparemment.
Il faut examiner cas par cas. Moi, je ne peux pas dire que tous les 15 dossiers sont les mêmes. Il faut évaluer les dossiers cas par cas. Mais là aussi, quelle est la meilleure façon pour faire valoir nos raisons? D'insulter le gouvernement français tous les jours, après lui demander l'extradition, ou de se mettre autour de la table. Nous n'étions pas toujours d'accord avec la France de Macron en tant que gouvernement italien de Gentiloni. Mais quand on avait un différend, on se mettait autour de la table, sans crier, sans communiquer de presse, et on essayait de résoudre les questions. Et je crois que même sur la question des terroristes italiens en France jugés, en voie définitive, et c'est ça, ça serait ça la bonne attitude. Et c'est pas l'attitude que Salvini est en train de montrer. Ouais. Donc ça va nuire les intérêts nationaux de mon pays.
D'un mot, Matteo Salvini a dit hier qu'il était fondamental de revenir à de bonnes relations avec la France et qu'il était prêt à rencontrer, que ce soit à Paris ou à Rome, son homologue ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Oui. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il a l'impression que ça a été trop loin et qu'il veut maintenant faire retomber la tension?
Il est plus malin de Luigi Di Maio, donc il a compris que c'était le moment de tenir un discours un peu plus modéré, il ne faut pas le croire, mais surtout à demander Castaner pour discuter de la Lyon-Turin. Ouais. Et des extraditions. Le problème, c'est que le premier, c'est un sujet pour la ministre de l'Intérieur. Le deuxième, c'est un thème pour le ministre de la Justice. Ouais. Vous voyez l'ambiguïté dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Italie, avec un président du Conseil qui, formellement, est le numéro un du gouvernement, mais il ne l'est pas. Et avec deux numéros deux qui sont en concurrence pour être les vrais numéro un, mais sans doute aujourd'hui l'homme fort de ce gouvernement est Salvini. Et d'ailleurs, en tant que ministre de l'Intérieur, il s'invite à Paris pour discuter des questions de justice, de transport, des politiques étrangères. Et
donc vous n'êtes pas sorti de l'auberge, est-ce que vous êtes en train de...
Non, il faut que les élections européennes soient une très bonne occasion, un devoir pour nous de commencer à construire une alternance en Italie, à ces gouvernements qui sont en train de gravement nuire nos intérêts nationaux et, je crois aussi, nos intérêts communs en Europe.
Alors maintenant, quand on cite des exemples de populisme, de nationalisme, on cite l'Italie, j'imagine que ça ne vous fait pas plaisir, mais comment vous analysez-vous ce retour du nationalisme en Europe? Vous avez cité François Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre, mais nationalisme c'est aussi beaucoup la peur. Comment on rassure pour éviter qu'il prolifère ce nationalisme et qu'il s'installe pour longtemps? Est-ce qu'il suffit, comme disait De Gaulle, d'être assis sur sa chaise et de sautiller en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe » ça servira à rien?
Non, pas du tout. La peur est sans doute la meilleure alliée du nationalisme. La peur et l'insécurité, l'insécurité sont les meilleurs alliés du nationalisme. Les gens ont peur.
Mais il faut les rassurer, non?
Oui. Et
comment?
Il faut construire. La politique nationale n'arrive pas à gérer certaines questions. L'immigration, on la subit si on la gère avec des politiques nationales. Pour reprendre contrôle sur l'immigration, il nous faut une véritable politique européenne de l'immigration. La lutte contre le terrorisme a besoin d'une coopération encore plus forte. On a beaucoup amélioré, encore plus forte entre les polices et les services d'intelligence, les services secrets nationaux. La question des inégalités ne peut pas être seulement délégué aux États. Il faut une Europe qui multiplie des protections et des sécurités. Aujourd'hui, on n'a pas eu cette Europe-là. Moi, je m'en souviens, j'étais un député de l'opposition, on nous avait présenté les premiers programmes d'assistance pour la Grèce. Il y avait Olli Rehn, il y avait les ministres italiens, il y avait la Banque d'Italie. Et à ma question, mais est-ce que vous avez considéré l'impact social dévastateur que ces premiers programmes vont avoir? La réponse est fut, les questions sociales ne sont pas de notre compétence. Il faut dire basta, comme on dit en Italie, à cette Europe-là. Il faut sortir des statu quo. Il faut construire l'Europe qu'il nous faut. Parce qu'autrement, si on ne donne pas des réponses aux besoins des pères d'insécurité, on ne peut pas blâmer après les citoyens s'ils vont dans les bras des nationalistes.
Alors, je vais vous poser une double question, parce que d'une certaine manière, les deux sujets sont peut-être liés. Est-ce que les sociaux-démocrates italiens ont fait leur examen de conscience pour se demander pourquoi aujourd'hui Matteo Salvini et Luigi Di Maio sont au pouvoir? Et d'autre part, chez vous, c'est la proportionnelle qui est à l'œuvre pour les élections législatives, pas intégrale, mais très forte dose de proportionnelle. Est-ce que ce sujet fait débat? Est-ce que parfois, dans la classe politique italienne, on se dit peut-être réfléchir à un mode de scrutin qui nous assurerait des gouvernements un peu plus stables?
Alors, sur la première question, l'examen des consciences est continué dans les centres gauche italiens. Ça fait 30 ans qu'on fait des examens des consciences.
Là, à un moment donné, il faut tirer des conclusions.
Il est clair qu'il fallait faire les plans du ministre de l'Intérieur Minniti sur l'immigration et dans la Libye. Il fallait faire en 2014 et pas en 2017. C'est un plan qui nous a permis de réduire de 80% les flux migratoires de la Libye, de la Méditerranée centrale vers l'Italie. C'est notre plan, nous avons réussi. Il ne fallait pas les faire en 2017, il fallait faire en 2014. On aurait enlevé un cheval de bataille très important à Salvini. Les revenus d'inclusion sociale, qui est un véritable instrument que nous avions introduit pour lutter contre les chômages et pour réinsérer les pauvres, il fallait faire en 2014 et pas en 2018. C'est ça, ce sont les deux chevaux de bataille avec lesquels les 5 étoiles et la Lega nous ont battus. Donc sans doute, oui, on a eu tort d'attendre 4 ans pour introduire des mesures aussi importantes. Et après, il y a eu un référendum sur la réforme constitutionnelle que Matteo Renzi a perdu et sur lequel il y a eu des querelles intérieures, de laquelle les pires ennemis chez nous a été à l'intérieur du Parti démocrate. Et ça, c'est un problème éternel du centre-gauche italien. On pense que l'adversaire, c'est l'intérieur de notre camp, au lieu de regarder les adversaires très dangereux au-delà. Si on avait gagné le référendum, aujourd'hui, vous connaîtrez une autre Italie, je vous l'assure.
Est-ce que le combat entre nationalistes et progressistes, ce qu'a en tout cas voulu installer comme duel Emmanuel Macron, est-ce que c'est d'abord le bon angle d'attaque? Et certains pourraient vous rétorquer que le progressiste, c'est pas forcément votre camp, mais peut-être le camp des nationalistes. Enfin, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien évidemment, je ne pense pas ce que je dis, mais
c'est un bel oxymore.
Voilà, où se situe le progressisme?
D'après moi, et c'est pas Macron, c'est pas nous qu'on nous créant les clivages entre nationalisme et progressiste européen. Il est dans la réalité. C'est un clivage qui s'est imposé dans la société. C'est un clivage qui s'est imposé dans le système politique. Il faut l'assumer et il faut absolument.
Pourquoi les Européens seraient des progressistes? C'est ça la question.
Et il faut sortir sans doute sortir du statu quo. Et pour sortir du statu quo, il y a deux possibilités. Soit on revient en arrière et on aggrave encore plus les problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre faute des politiques communes, soit on dit il y a des questions sur lesquelles il faut avancer, refonder l'Europe, avancer, sortir du statu quo, la dimension sociale, les politiques sociales, les gouvernements de l'immigration, les luttes contre les chômages climatiques et les changements climatiques et des grandes questions, la finance globale, les numériques, les grands géants du numérique, comment on peut les mettre au service du bien commun avec des 27 politiques nationales ou nationalistes ou avec des nouvelles politiques européennes. Moi, j'appelle ça du progressisme, les deuxièmes. Et j'appelle un recul, les premiers.
Voilà, on a terminé. Vous m'avez fait un petit signe, je vous ai un peu interrompu, mais voilà, c'est parce qu'on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Sandro Gozzi.
Merci d'avoir été invité, et merci à Camille Néran et à Charlotte Orient-Tomaca d'avoir préparé cette émission, et à toute l'équipe technique à très vite. Appel sur la